Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
De l'église, ça se passe avec Emmanuel Pella et c'est dans 20 minutes. Nous irons aussi faire le tour des diocèses sous ce beau soleil avec toujours Isabelle O'Neill, mais juste avant. Votre journal avec Luc Vidal-Giraud.
Bonjour à tous. Hier, plusieurs dizaines d'enseignants et de parents d'élèves ont manifesté devant le rectorat de Toulouse pour sauver des classes menacées de fermeture en raison de la crise sanitaire. Une délégation a été reçue par la direction académique de Haute-Garonne. Il faut dire qu'à Toulouse et autour, plusieurs écoles maternelles, élémentaires, collèges sont impactées par de possibles suppressions de classes et donc de postes. Ce rassemblement, lancé à l'appel de plusieurs syndicats enseignants et de la FCPE, s'est tenu alors que se déroulait un comité technique départemental qui précède le conseil départemental de l'éducation nationale. C'est là que sont prises les décisions finales sur les ouvertures et fermetures de classes. De son côté, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, a adressé hier un courrier à l'Agence régionale de santé. Il y évoque les inconvénients croissants que provoquent à ce jour ces nombreuses fermetures de classes. Cette situation forcée pour l'ensemble des élèves des classes concernées met particulièrement en difficulté les parents n'ayant pas la possibilité de garder ou de faire garder leurs enfants, estime le maire de Toulouse. Jean-Luc Moudin déplore l'absence d'informations correctes des familles sur la quatorzaine et la mise à l'isolement de tous les cas contacts, une mesure qu'il juge excessive et pointe du doigt le fait que la présence d'un enfant positif au Covid-19 lors d'une récréation suffise à ce que l'ARS place l'ensemble des enfants présents à la récréation en quatorzaine. Toujours à propos de cette crise sanitaire, la mairie de Cahors a annoncé qu'elle organiserait mercredi prochain la distribution du second masque promis aux habitants. S'il n'y a aucune hospitalisation liée au Covid-19 dans le Lot, le nombre de cas continue de progresser dans le département. Les habitants pourront venir à partir de mercredi prochain se procurer un masque supplémentaire dans 4 lieux de la ville. L'accueil Wilson et les 3 centres sociaux, Sainte-Valérie, la Croix-de-Fer et Terre-Rouge. Justice, lors de la 4e journée du procès en appel de Belkacem Atamena, poursuivi pour l'incendie criminel d'un foyer de la Croix-Rouge à la Lavelanet en Ariège, un incendie qui avait fait 3 victimes, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité. En première instance, le prévenu avait été condamné à 25 ans de prison assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Après les plaidoiries de la défense, le verdict de la cour d'assises de Toulouse devrait être rendu dans la journée. Le Conseil d'État se penche sur la demande du club de football de Luzenac en Ariège, une demande de 4,5 millions d'euros à la Fédération française de football pour réparer son empêchement d'accéder à la Ligue 2. Les faits remontent à 2014. Le Luzenac Ariège-Pyrénées, petit club amateur, obtient sur le terrain le droit de monter en Ligue 2. Mais le président de la Fédération française de football en décide autrement et met son veto à cette montée du club ariégeois. En 2017, le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté la demande d'annulation de cette décision formulée par le club. Et 2 ans plus tard, en 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule ce jugement ainsi que la décision de la fédération. Le Conseil d'État rendra sa décision dans les prochaines semaines. Elles sont 32 sœurs d'une communauté cistercienne à vivre dans l'abbaye de Boulors, dans le Gers. Elles se sont lancées dans un ambitieux projet de ferme bio avec pour objectif de nourrir leur communauté grandissante et vivre du travail de la terre. Le projet de 4 millions d'euros vise à construire une grange avec un élevage bovin, une fromagerie, une charcuterie, des espaces pédagogiques ainsi qu'un magasin de vente directe. L'objectif est non seulement de nourrir la communauté mais aussi les visiteurs hébergés dans l'hôtellerie monastique qui propose une vingtaine de chambres mais aussi un camping pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes. Le chiffre d'affaires actuel de l'exploitation agricole est d'environ 100 000 euros. Les sœurs de Boulors entendent le multiplier par 4. La première tranche de travaux prévoit la construction d'une grange qui hébergera 30 vaches laitières, un local pour faire de la farine ainsi qu'une galerie pour les visiteurs. Le bâtiment servira aussi à expérimenter un système écologique pour le fourrage grâce au séchage en grange. La livraison de la grange est prévue pour Noël et les ateliers seront inaugurés d'ici l'été prochain. La deuxième tranche du projet prévoit la construction à l'entrée du village d'un espace d'accueil avec un magasin, un grand préau d'exposition et un hall d'accueil pour les visites. Il devrait être terminé mi-2022. Les Restos du Cœur de Toulouse lancent un appel à l'aide. La crise du Covid-19 n'épargne pas les associations humanitaires. À Toulouse, comme partout ailleurs, le nombre de bénéficiaires augmente fortement et l'association a besoin de bénévoles. À titre de comparaison, en un an, le nombre de repas distribués le soir lors des maraudes des Restos du Cœur est passé de 400 à plus de 800 par jour. Le département de la Haute-Garonne compte 35 centres des Restos du Cœur et pour les gérer, elle peut compter sur un peu plus de 1360 bénévoles et 8 salariés. Problème, beaucoup ont plus de 65 ans et doivent par précaution se retirer des plannings. Autre secteur touché par la crise, celui du cinéma. Si les salles ont rouvert le 22 juin dernier, le public tarde à revenir dans les salles. L'Occitanie n'est pas épargnée par le phénomène. La région compte plus de 200 établissements de cinéma qui tous constatent une chute de fréquentation. Seulement 20 à 30% des entrées réalisées habituellement sont enregistrées cette année. Face à cette situation, l'agence de cinéma Occitanie Film a conçu une vidéo réunissant une quarantaine de personnalités du milieu du cinéma afin de porter un message « Allons au cinéma ». Cette vidéo de 5 minutes sera diffusée dès le 18 septembre prochain dans les salles d'Occitanie et sur Internet. Elle invite le public à venir découvrir des films sur grand écran et rappelle que les exploitants de salles ont pris des mesures sanitaires nécessaires pour protéger tous les spectateurs. Cette même vidéo sera relayée sur les réseaux sociaux afin d'encourager les internautes à se rendre dans les salles de cinéma. L'été n'est toujours pas fini, mais c'est déjà l'heure de préparer la saison d'hiver, surtout pour les stations de ski. Celle de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, fêtera en 2021 ses 50 ans. Pour préparer la saison et commémorer cet anniversaire, la station fait un appel aux dons de photos qui pourront illustrer ce demi-siècle d'activité. Vous pouvez envoyer vos photos avant samedi 31 octobre à l'attention du service commercial de la station. Plus d'infos sur le site de la station de Gavarnie, le www.ski-gavarnie.com. Et puis un petit mot de rugby avec la deuxième journée de top 14 ce week-end. Pau reçoit Agen ce soir. Demain, Toulouse accueille La Rochelle et dimanche, Castres sera opposé au Stade français. À noter que les supporters du Stade toulousain pourront se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous samedi après-midi dans l'enceinte du stade Ernest Vallon à l'occasion du match contre La Rochelle. Une opération conjointe de l'ARS, la préfecture, le stade de Toulousain et le CHU de Toulouse.
La météo. Pour cet après-midi du 27 degrés en moyenne dans notre région d'Occitanie avec le soleil pour le week-end. Demain matin, le soleil continuera de vous accompagner avec des températures plus fraîches que ce début de semaine. 13 degrés près du boulevard Gambetta à Cahors, 14 dans le Gers et à Saint-Gaudens ainsi que dans l'Aveyron. Le thermomètre affichera du 16 degrés près du bowling de Montaudran. L'après-midi, les températures doublent. Nous atteindrons même les 30 degrés dans le Tarn-et-Garonne, 29 pour Condom et dans la Haute-Garonne, 28 au Château-Fort de Lourdes. Pour dimanche après-midi, faites là aussi très attention, il fera 31 degrés en moyenne. Mettez-vous à l'ombre et buvez beaucoup d'eau. Excellent après-midi sur Présence. Allez, bientôt le week-end. Dans 3 minutes, l'interview de ce matin avec Isabelle O'Neill, juste avant de la musique. J'aurais voulu être un artiste sur Présence et sous ce beau soleil dans l'Occitanie. Il est actuellement midi 8.
T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air entre New York et Singapour, tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Tu peux pas supporter la misère. T'es pas heureux, mais t'en as l'air. T'as perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi et t'en es fier au fond. Tu n'as qu'un seul regret, tu fais pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir faire ton numéro.
Présence à Luchon, 94 FM.
À Lourdes, car c'est de là qu'est partie une route du pèlerinage du M de Marie. C'était début juin, pendant qu'une autre route prenait, elle, le départ de Notre-Dame de la Salette. Deux processions symétriques, donc, hein, qui ont retracé à travers la France le grand M dessiné par les cinq lieux d'apparition de Marie au XIXe siècle. Les deux routes se retrouvent le 12 septembre, demain, donc, à Pellevoisin dans l'Indre. Ça sera la fin de ce pèlerinage hors du commun dont on parle ce matin avec mon invité. Bonjour, Père Anne-Guillaume Werneck.
Bonjour.
Vous êtes chapelain du sanctuaire de Lourdes et vous avez eu la chance d'assister et de bénir le départ de ce curieux attelage. Vous allez nous raconter, s'il vous plaît, pour nous qui n'y étions pas. Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là?
C'était très beau et assez impressionnant de voir cet attelage. Donc, effectivement, vous aviez un cheval avec une carriole, je ne sais même pas comment appeler ça, et puis derrière, une remorque qui portait la statue de la Vierge Marie, donc qui est entrée dans le sanctuaire à Lourdes. Par la porte Saint-Joseph. Alors, vous savez, c'était une période où il y avait encore assez peu de pèlerins, mais au moins, eux étaient là. Puis ils étaient rejoints, ça, c'était assez... c'était finalement le plus impressionnant, par tout un groupe de pèlerins de la paroisse de Lourdes et des environs qui ont pu venir, qui ont voulu assister à ce départ. Donc, tous les coups, on s'est retrouvés avec plein de pèlerins à la grotte autour de ce cheval, enfin, surtout autour de la Vierge Marie.
Bien sûr, une statue, vous l'avez dit, 2 mètres de haut pour la Vierge Notre-Dame de France, un cheval, un très breton pour être précis. Alors derrière, il y a des pèlerins. Ces pèlerins, ils ont parcouru la France, 100 000 environ sur les deux routes pendant ces 2 mois de pèlerinage, un pèlerinage hors du commun. Un grand moment de piété populaire, en quelque sorte, Père Anne-Guillaume.
Oui, c'est ça, oui. Et puis, qui manifestait toute l'espérance et toute la confiance que tous ces pèlerins mettent dans la Vierge Marie, bien sûr, pour la France, et puis pour tout ce qu'on a à attendre de la part du Seigneur, de la part de Dieu, pour nos pays, tous les pays, et puis pour l'Église.
Ouais, rappelons que c'est donc une initiative portée par des laïcs de la confrérie Notre-Dame de France, qui est à cette confrérie est à l'origine des vierges pèlerines dans les années 90. L'objectif de ce pèlerinage, c'était de confier notre pays à Marie. Et c'est, je crois, me disait un organisateur, l'incendie de Notre-Dame qui a été le déclencheur de cette initiative. Alors, au moment de l'arrivée de ce pèlerinage, donc je l'ai dit, ils arrivent, les deux routes se rejoignent ce week-end à Pellevoisin. On va s'intéresser, si vous voulez bien, Père Anne-Guillaume, à ce dialogue avec Marie. Ce dialogue avec Marie, évidemment, vous qui êtes à Lourdes, vous en connaissez quelque chose. Pourquoi prier Marie, en quelque sorte? Pourquoi prier, s'adresser à elle, évidemment, plutôt qu'à son fils, plutôt qu'à Dieu?
Alors, oui, d'abord, on prie aussi Dieu et le Seigneur Jésus, évidemment. Mais c'est certain que si on regarde, par exemple, dans les évangiles, la fin de l'évangile se termine de manière très belle quand Jésus meurt sur la croix, cette toute dernière parole, où il confie le disciple, donc c'est nous le disciple, il confie le disciple à sa mère, donc la Vierge Marie. Et l'évangile précise, et de cet instant, le disciple l'a pris chez lui. Et donc, c'est la manière qu'a Jésus de sceller l'évangile, de nous confier à la Vierge Marie. Et ça, ça implique forcément de la part du chrétien, du disciple de Jésus, eh bien de se mettre en quelque sorte à l'école de la Vierge Marie ou d'accueillir la Vierge Marie, de s'adresser à elle, puisque c'est elle qui a subsisté en quelque sorte après l'Évangile, après Jésus, pour nous accompagner dans notre vie chrétienne. Donc c'est ça justifie toute relation dans l'Église avec la Vierge Marie. Et puis évidemment, puisqu'on suit ce pèlerinage-là, on constate à quel point il y a une sollicitude, c'est quand même très impressionnant, une sollicitude de la Vierge Marie vis-à-vis de nous. Elle nous adresse la parole, alors on lui répond aussi, on se tourne vers elle de la même manière.
Exactement. Alors, vous parlez de sollicitude. Effectivement, il y a un dialogue. On comprend s'adresser à Marie, c'est celle que nous confie Jésus. Elle scelle l'évangile, nous dites-vous. Et de fait, elle nous parle. Il y a une sollicitude. Le M de Marie dont on parle, qui retrace les 5 lieux d'apparition de la Vierge en France au XIXe siècle. 5 lieux en 46 ans, sans compter les différents lieux où la Vierge est apparue auparavant. Pourquoi cette frénésie? Pourquoi est-ce que Marie s'occupe autant de la France? Est-ce qu'on est les chouchous de Marie ici en France?
Ah, ce serait une manière de voir les chouchous de Marie. Mais moi, je me dis des fois, la Vierge Marie, elle peut s'adresser à nous un peu, vous savez, comme comme une, je sais pas comment dire ça, comme une maîtresse à l'école, qui va s'intéresser un peu plus à ces enfants terribles. Alors c'est peut-être parce qu'au contraire, nous sommes un peu des enfants difficiles. D'ailleurs, dans certains messages de la Vierge Marie dans les apparitions, elle dit à vraiment les Français, vous êtes un peu durs. Alors, donc elle s'inquiète davantage de nous parce que justement, nous ne sommes pas aussi dociles qu'elle aimerait que nous soyons. Peut-être.
D'accord, c'est comme ça qu'il faut voir le lien de la Vierge à la France, une maîtresse avec ses enfants terribles. Alors vous parlez des différents endroits, si vous voulez bien, on va les prendre les uns après les autres. D'abord, je vais tous vous les donner. Il y a d'abord eu l'apparition en 1830 à Catherine Labouré, rue du Bac, puis en 1846, Notre-Dame de la Salette. En 1858, évidemment, c'est Lourdes à Bernadette. 1871, c'est Pontmain. Et on finit à Pellevoisin en 1867. Si on devait retenir le message de la rue du Bac, par exemple, Père Anne-Guillaume.
Alors, le message de la rue du Bac, bon, c'est très, tout est infiniment riche, mais moi je retiens cette parole, si vous voulez, de la Vierge Marie, dès le début des apparitions. Elle dit, venez, à Catherine Labouré, hein, venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demandent avec confiance et ferveur. C'est vraiment une invitation à venir, alors à venir auprès de l'autel, c'est-à-dire venir à Jésus, venir aussi évidemment auprès d'elle, la Vierge Marie, parce qu'elle elle veut nous donner sa grâce, elle veut nous, enfin, c'est la grâce de Dieu, elle veut nous transmettre la grâce de Dieu. Donc, c'est une invitation comme cela à nous lever et aller à Jésus. C'est une invitation à nous convertir finalement.
Et oui. Et alors, j'ai noté aussi qu'elle tient un globe dans ses mains et ce globe représente le monde entier, spécialement la France et chaque personne en particulier. Intéressant, toujours ces enfants terribles là. Hein.
C'est ça. Alors, le monde entier, la France, mais avec la France, il faut dire aussi toutes les nations. Hein, parce qu'à la fin, chaque personne en particulier, c'est jamais évidemment exclusif. C'est-à-dire que nous sommes tous entre les mains de la Vierge Marie. Il y a cette dimension des nations, des peuples. On retrouve ça dans la parole de Dieu de manière très abondante. L'Église a reçu le mandat d'enseigner, d'annoncer l'Évangile à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les races, à toutes les langues. Et donc, il y a toujours cette dimension-là, un peu nationale ou plus populaire, qu'on retrouve aussi dans les apparitions de la Vierge Marie.
Alors sur ce grand M qu'elle trace en France, à travers ses apparitions, elle passe donc à la Salette, elle apparaît à la Salette en 1846, la Vierge Marie, et là, elle apparaît à des enfants, elle est en pleurs.
Oui, ça c'est quelque chose d'assez impressionnant, je pense que ça fait partie de la constante des messages de la Vierge Marie en France, c'est cet appel à la conversion, du fait de la tristesse et de la gravité du péché. Finalement, la Vierge Marie qui pleure ou qui se montre très triste, c'était le cas aussi dans d'autres apparitions, mais en particulier à Lourdes, où tellement la tristesse de la Vierge Marie était impressionnante pour Bernadette, ça faisait pleurer Bernadette. Ça nous fait comprendre la gravité du péché qui traverse le cœur de l'homme, finalement, quoi. Donc c'est toujours cette dynamique-là d'un appel à la conversion, et puis évidemment à nous tourner vers Jésus pour obtenir la guérison du cœur, la conversion, pour obtenir le bonheur que
mais
Dieu veut
donner. Et elle est presque, je ne vais pas dire menaçante, mais presque à la Salette. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, dit-elle, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant, je ne puis plus le maintenir. » Étonnant quand même.
Oui, c'est des messages. La Salette, c'est le message le plus difficile, je pense, hein, le plus douloureux. Voilà, je pense que la gravité du péché doit être doit vraiment nous impressionner. Alors voilà, il faut que la maîtresse parfois soit un peu menaçante vis-à-vis de ces mauvais élèves. Mais derrière tout cela, quand même, hein, les voyants, même à la Salette aussi, témoignaient de cette la beauté impressionnante de la Vierge Marie et de sa douceur extraordinaire, quoi. Donc il n'y a que la Vierge Marie, on le verra à l'autre, comme elle s'est manifestée Immaculée Conception, c'est-à-dire indemne de tout péché, qui peut reprendre ses élèves un peu pécheurs avec cette douceur extraordinaire. Elle peut avoir un discours difficile, douloureux, grave, mais parce que ça vient de la Vierge Marie et qu'elle manifeste une telle sollicitude maternelle infiniment douce vis-à-vis de nous, le message passe, je dirais.
Alors, on va passer rapidement sur Lourdes, que l'on connaît bien, mais en rappelant tout de même le côté international. Ce sont les mots du père Ribado Dumas dans le livret du pèlerin de ce pèlerinage du M de Marie. International de cette rencontre, parce que Marie parle en bigourdan, et donc elle nous parle à nous tous. Père, à Pontmain, Marie apparaît à nouveau à des enfants, et là la France est en guerre, l'heure est grave. Hein.
Oui. Oui. Ah oui, à Pontmain. Oui, c'est ça. Bon, bah, c'est pareil, il y a une espèce d'appel à la conversion. Quand on voit, par exemple, juste avant, les grandes personnes, les adultes, se lamenter en disant « mais on prie, et ça n'aboutit à rien ». Et c'est la Vierge Marie qui apporte la réponse en disant « mais priez, mes enfants, le cœur de mon fils se laisse toucher ». Donc là, il y a un très beau, finalement, c'est un dialogue complet entre tout le peuple de Pontmain. Donc à travers le peuple de Pontmain, c'est le peuple de France, et puis c'est tous les peuples de la Terre. Un très beau dialogue entre le peuple et donc la Vierge Marie qui répond vraiment aux prières des âmes.
Alors ce samedi, le M de Marie, le pèlerinage étonnant hein, qui a traversé la France depuis deux mois avec ses deux processions symétriques, une calèche qui porte une statue de la Vierge, se retrouve à Pellevoisin où là la Vierge est apparue et venue visiter la jeune Estelle Faguette qu'elle guérit et charge de répandre le scapulaire. Là, elle s'est présentée, la Vierge, sous son côté miséricordieux, hein. Peut-être on peut dire
oui.
Ça comme ça.
Bon. C'est aussi impressionnant. À Pellevoisin, c'est des apparitions en France les moins connues. C'est très dommage parce que vraiment, c'est un très, très beau message. Et donc, j'invite tout le monde à venir en pèlerinage à Pellevoisin. Il faut aller dans tous ces lieux. Hein, tout,
à Lourdes aussi, quand même.
Hein.
Vous allez vous faire taper sur les doigts.
Non, il n'y a pas de concurrence. La Vierge Marie est très délicate vis-à-vis d'Estelle, qu'elle corrige aussi en disant, voilà, tu es toujours un peu énervé. Calme-toi, et comme ça je pourrai plus facilement venir auprès de toi. Enfin, des très beaux messages qui montrent aussi vraiment cette sollicitude maternelle de Marie vis-à-vis de cette Faguette.
Alors Marie qui parle à la France, les Français qui parlent à Marie et la supplient à travers ce pèlerinage, comment Marie peut nous aider aujourd'hui dans la situation sanitaire qui est la nôtre, Père, dont Anne-Guillaume?
Alors d'abord, il faut vraiment croire qu'elle peut nous aider. Hein. On voit par exemple, il y a tant et tant de vœux nationaux ou de vœux de populations entières pour arrêter des épidémies. Ça, c'est toute l'histoire de la chrétienté qui a été marquée par cela. Donc vraiment, si on peut se tourner vers la Vierge Marie avec une vraie confiance, et puis Marie peut intervenir. On le voit, elle apparaît pour précisément, ça témoigne de son intervention. À nous, avec confiance et ferveur, hein, comme elle le demande à la rue du Bac, eh bien de nous tourner vers elle.
Puis voyez, elle nous dirait exemple, quoi, Marie, aujourd'hui?
Pardon,
Elle nous dirait quoi, aujourd'hui?
Je pense la même chose. Hein. En fait, quand on regarde bien dans le fond des messages, c'est toujours très différent, mais derrière, il y a toujours la même chose. C'est un appel à nous tourner vers elle, avoir confiance, à vivre de la foi, à vivre de l'espérance, en premier, quoi, de mettre la foi et l'espérance prioritaires à notre vie, avant de nous prémunir, de nous préserver, de faire attention à la vie terrestre telle qu'elle est aujourd'hui. On invite à se tourner vers la vie du ciel. C'est ça l'espérance, hein, de penser que cette vie éternelle devrait avoir beaucoup plus de poids et nous servir un peu de guide pour bien mener notre vie terrestre. Ça, ce que j'appelle moi l'appel à la conversion, c'est une compréhension que notre vie terrestre a une finalité infiniment plus grande que ce que nous en connaissons sur Terre.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Anne-Guillaume. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, juste qu'à Lourdes, on voit toutes les guérisons que Marie a toujours obtenues par son intercession auprès de Dieu. Donc ça, c'est quand même pour nous aujourd'hui, où le monde entier est dans une crise sanitaire sans précédent, parce que c'est mondial, ça a du sens de se tourner vers la Vierge Marie, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages hein, à l'occasion de l'arrivée de ces retrouvailles, de ces deux routes qui se retrouvent à Pellevoisin, le M de Marie, en allusion à ce M qu'elle a dessiné à travers ses apparitions. Vous retrouverez toutes les informations sur le M de Marie, si ça vous intéresse, sur leur site internet mdemarie.fr. À noter donc hein, que ce samedi, il y aura une grande fête à Pellevoisin. Dimanche, la messe sera célébrée par Monseigneur Jérôme Beau à Pellevoisin. Merci beaucoup, Père.
Merci, bonne journée.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec Emmanuel Pella pour votre émission Église Actualité. Bon appétit si vous venez de vous mettre à table dans notre partie d'Occitanie.
Église Actualité, Emmanuel Pella.
Demain, à Toulouse, le service des pèlerinages et la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs organise une journée mariale au programme. Temps de prière et de pèlerinage à travers la ville et conférences sur le thème Notre-Dame de la Dorade, hier et aujourd'hui. Rendez-vous demain dès 10h15 à l'église Notre-Dame de la Dorade à Toulouse. Demain, à Calmont, le diocèse de Rodez organise une journée diocésaine de la vie consacrée. Rendez-vous demain dès 10h à la basilique Notre-Dame de Seignac à Calmont. Demain à Montauban, le diocèse propose le concert. Demain toujours, à Montauban, le diocèse propose le concert trompette et orgue avec Guy Touvron, trompettiste de renommée internationale, et Emmanuel Chublin, organiste, avec la dédicace du nouveau disque enregistré à l'orgue historique de Sainte-Gabelle. Rendez-vous demain à 20h30 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Montauban. Réservation heuremusicale@festik.net. Dimanche 13 septembre, pour rappel, à Cahors, le diocèse propose de venir participer à l'ordination diaconale de Xavier d'Arguegen par Mgr Laurent Camiade, évêque du diocèse. Rendez-vous à 16h à l'abbatiale Saint-Sauveur, à Figeac. Dimanche 13 septembre, à Caylus, le diocèse de Montauban propose aux fidèles de venir participer à la confirmation des adultes du diocèse par l'évêque du lieu, Mgr Ginoux. Rendez-vous à 15h30 à Caylus, au sanctuaire Notre-Dame de Livron. Lundi 14 septembre, à Trie-sur-Bèze, le diocèse de Tarbes et Lourdes propose la rencontre des chrétiens en monde rural. Au programme, temps de réflexion et moments conviviaux. Rendez-vous à 18h30 au presbytère à Trie-sur-Bèze.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
À midi 29 à l'horloge de Présence, votre journal régional avec Luc Vidal-Giraud.
Bonjour à tous. Hier, plusieurs dizaines d'enseignants et de parents d'élèves ont manifesté devant le rectorat de Toulouse pour sauver des classes menacées de fermeture en raison de la crise sanitaire. Une délégation a été reçue par la direction académique de Haute-Garonne. Il faut dire qu'à Toulouse et autour, plusieurs écoles maternelles, élémentaires, collèges sont impactées par de possibles suppressions de classes et donc de postes. Ce rassemblement lancé à l'appel de plusieurs syndicats enseignants et de la FCPE s'est tenu alors que se déroulait un comité technique départemental qui précède le conseil départemental de l'éducation nationale. C'est là que sont prises les décisions finales sur les ouvertures et fermetures de classes. De son côté, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, a adressé hier un courrier à l'Agence régionale de santé. Il y évoque les inconvénients croissants que provoquent à ce jour ces nombreuses fermetures de classes. Cette situation forcée pour l'ensemble des élèves des classes concernées met particulièrement en difficulté les parents n'ayant pas la possibilité de garder ou de faire garder leurs enfants, estime le maire de Toulouse. Jean-Luc Moudin déplore l'absence d'informations correctes des familles sur la quatorzaine et la mise à l'isolement de tous les cas contacts, une mesure qu'il juge excessive et pointe du doigt le fait que la présence d'un enfant positif au Covid-19 lors d'une récréation suffise à ce que l'ARS place l'ensemble des enfants présents à la récréation en quatorzaine. Toujours à propos de cette crise sanitaire, la mairie de Cahors a annoncé qu'elle organiserait mercredi prochain la distribution du second masque premier aux habitants. S'il n'y a aucune hospitalisation liée au Covid-19 dans le Lot, le nombre de cas continue de progresser dans le département. Les habitants pourront venir à partir de mercredi prochain se procurer un masque supplémentaire dans 4 lieux de la ville, l'accueil Wilson et les 3 centres sociaux, Sainte-Valérie, la Croix-de-Fer et Terre Rouge. Justice, lors de la 4e journée du procès en appel de Belkacem Atamena, poursuivi pour l'incendie criminel d'un foyer de la Croix-Rouge à la Lavelanet en Ariège, un incendie qui avait fait 3 victimes, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité. En première instance, le prévenu avait été condamné à 25 ans de prison assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Après les plaidoirie de la défense. Le verdict de la cour d'assises de Toulouse devrait être rendu dans la journée. Le Conseil d'État se penche sur la demande du club de football de Luzenac en Ariège, une demande de 4,5 millions d'euros à la Fédération française de football pour réparer son empêchement d'accéder à la Ligue 2. Les faits remontent à 2014. Le Luzenac Ariège-Pyrénées, petit club amateur, obtient sur le terrain le droit de monter en Ligue 2. Mais le président de la Fédération française de football en décide autrement et met son veto à cette montée du club ariégeois. En 2017, le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté la demande d'annulation de cette décision formulée par le club. Et 2 ans plus tard, en 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule ce jugement ainsi que la décision de la fédération. Le Conseil d'État rendra sa décision dans les prochaines semaines. Elles sont 32 sœurs d'une communauté cistercienne à vivre dans l'abbaye de Boulor, dans le Gers. Elles se sont lancées dans un ambitieux projet de ferme bio, avec pour objectif de nourrir leur communauté grandissante et vivre du travail de la terre. Le projet de 4 millions d'euros vise à construire une grange avec un élevage bovin, une fromagerie, une charcuterie, des espaces pédagogiques ainsi qu'un magasin de vente directe. L'objectif est non seulement de nourrir la communauté, mais aussi les visiteurs hébergés dans l'hôtellerie monastique qui propose une vingtaine de chambres, mais aussi un camping pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes. Le chiffre d'affaires actuel de l'exploitation agricole est d'environ 100 000 euros. Les sœurs de Boulor entendent le multiplier par 4. La première tranche de travaux prévoit la construction d'une grange qui hébergera 30 vaches laitières, un local pour faire de la farine ainsi qu'une galerie pour les visiteurs. Le bâtiment servira aussi à expérimenter un système écologique pour le fourrage grâce au séchage en grange. La livraison de la grange est prévue pour Noël et les ateliers seront inaugurés d'ici l'été prochain. La deuxième tranche du projet prévoit la construction à l'entrée du village d'un espace d'accueil avec un magasin, un grand préau d'exposition et un hall d'accueil pour les visites. Il devrait être terminé mi-2022. Les Restos du Cœur de Toulouse lancent un appel à l'aide. La crise du Covid-19 n'épargne pas les associations humanitaires. À Toulouse, comme partout ailleurs, le nombre de bénéficiaires augmente fortement et l'association a besoin de bénévoles. À titre de comparaison, en un an, le nombre de repas distribués le soir lors des maraudes des Restos du Cœur est passé de 400 à plus de 800 par jour. Le département de la Haute-Garonne compte 35 centres des Restos du Cœur et pour les gérer, elle peut compter sur un peu plus de 1360 bénévoles et 8 salariés. Problème, beaucoup ont plus de 65 ans et doivent par précaution se retirer des plannings. Autre secteur touché par la crise, celui du cinéma. Si les salles ont rouvert le 22 juin dernier, le public tarde à revenir dans les salles. L'Occitanie n'est pas épargnée par le phénomène. La région compte plus de 200 établissements de cinéma qui tous constatent une chute de fréquentation. Seulement 20 à 30% des entrées réalisées habituellement sont enregistrées cette année. Face à cette situation, l'agence de cinéma Occitanie Film a conçu une vidéo réunissant une quarantaine de personnalités du milieu du cinéma afin de porter un message « Allons au cinéma ». Cette vidéo de 5 minutes sera diffusée dès le 18 septembre prochain dans les salles d'Occitanie et sur Internet. Elle invite le public à venir découvrir des films sur grand écran et rappelle que les exploitants de salles ont pris des mesures sanitaires nécessaires pour protéger tous les spectateurs. Cette même vidéo sera relayée sur les réseaux sociaux afin d'encourager les internautes à se rendre dans les salles de cinéma. L'été n'est toujours pas fini, mais c'est déjà l'heure de préparer la saison d'hiver, surtout pour les stations de ski. Celle de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, fêtera en 2021 ses 50 ans. Pour préparer la saison et commémorer cet anniversaire, la station fait un appel aux dons de photos qui pourront illustrer ce demi-siècle d'activité. Vous pouvez envoyer vos photos avant samedi 31 octobre à l'attention du service commercial de la station. Plus d'infos sur le site de la station de Gavarnie, le www.ski-gavarnie.com. Et puis un petit mot de rugby avec la deuxième journée de top 14 ce week-end. Pau reçoit Agen ce soir. Demain, Toulouse accueille La Rochelle et dimanche, Castres sera opposé au Stade français. À noter que les supporters du Stade toulousain pourront se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous samedi après-midi dans l'enceinte du stade Ernest Vallon à l'occasion du match contre La Rochelle. Une opération conjointe de l'ARS, la préfecture, le stade toulousain et le CHU de Toulouse.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour les titres.
La météo.
Pour cet après-midi, du 27 degrés en moyenne dans notre région d'Occitanie avec le soleil pour le week-end. Demain matin, le soleil continuera de vous accompagner avec des températures plus fraîches que ce début de semaine. 13 degrés près du boulevard Gambetta à Cahors, 14 dans le Gers et à Saint-Gaudens ainsi que dans l'Aveyron. Le thermomètre affichera du 16 degrés près du bowling de Montaudran. L'après-midi, les températures doublent. Nous atteindrons même les 30 degrés dans le Tarn-et-Garonne, 29 pour Condom et dans la la Haute-Garonne, 28 au château fort de Lourdes. Pour dimanche après-midi, faites là aussi très attention, il fera 31 degrés en moyenne. Mettez-vous à l'ombre et buvez beaucoup d'eau. Excellent après-midi sur Présence.
On part faire le tour des diocèses avec Isabelle O'Neill. Nous allons dans le Tarn.
C'est un tour des diocèses qui nous emmène ce matin dans le diocèse d'Albi où nous retrouvons Jeanne-Françoise de Beaucor. Elle est déléguée épiscopale à l'information du diocèse. Des informations, elle en a. Bonjour Jeanne-Françoise de Beaucor.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Alors qu'est-ce qui se passe dans le diocèse d'Albi dans les prochains jours?
Alors un très grand événement se prépare. C'est une bénédiction abbatiale. Une bénédiction abbatiale, c'est un événement assez exceptionnel au moment de l'élection d'un nouvel abbé. Et ici, il s'agit du nouveau père abbé de l'abbaye Saint-Benoît d'Encalcate, dans le sud du Tarn, le père Emmanuel Roch, qui a été élu le 15 juillet dernier par ses frères. Et là, la bénédiction abbatiale va être célébrée par notre évêque, Monseigneur Legré. Et c'est vraiment une prière de toute l'Église qui vient couronner l'élection d'un nouvel abbé pour qu'il puisse assurer sa charge auprès de l'ensemble de ses frères. En Calcate, il y a une quarantaine de moines. Et donc, un bel événement. Père Emmanuel est le neuvième abbé de l'abbaye d'Encalcate qui a été fondée à la fin du 19e siècle. Donc, vous voyez, c'est un événement assez exceptionnel.
Événement exceptionnel, 9e abbé, effectivement, ça fait assez peu. Est-ce que les fidèles, tout le monde est invité à cet événement du diocèse, Jeanne-Françoise?
Alors, il y a vraiment une invitation large à pouvoir s'unir à cet événement en raison des restrictions sanitaires dues au Covid. Il y aura peu de place dans l'église, mais une retransmission est organisée en vidéo, à la fois sur le site internet du diocèse d'Albi et puis sur l'une des radios locales, sur RCF Pays Tarnais.
On va redonner la date pour s'unir également par la prière également.
Ce sera donc le lundi 14 septembre, lundi prochain, à 10h. Donc une fête de la croix glorieuse vécue avec les moines bénédictins de l'abbaye d'Encalcate.
Eh bien, c'est noté. Autre événement à noter dans les prochains jours, Jeanne-Françoise, pour le diocèse d'Albi?
On a la chance d'en avoir beaucoup. J'en cite deux. Nous célébrerons la messe chrismale mardi prochain. Puis nous avons la joie de vivre une ordination diaconale en vue du sacerdoce, celle de Jean-Baptiste Crépin, un séminariste qui sera ordonné diacre dimanche prochain, le 20 septembre, à 10h, à l'église Sainte-Madeleine d'Albi.
Eh bien, c'est noté. Un grand merci pour tous ces événements. On sera de tout cœur avec vous pour celui que vous avez mentionné. Je veux parler de la bénédiction abbatiale au moment de l'élection du père abbé de l'abbaye. Merci Jeanne-Françoise, on embrasse évidemment tous les habitants d'Albi et du diocèse, et on vous retrouve dans 15 jours.
Avec joie, bonne journée.
La revue de presse chrétienne, avec Marie-Pierre Pavlak.
Et c'est l'heure à présent de notre revue de presse de la semaine. Et Marie-Pierre, aujourd'hui, vous nous parlez de l'indicible d'assassinat, d'horreur, de violence et de peur.
Et de vie plus forte que la mort, plus forte que le mal. Depuis l'ouverture du procès des attentats de 2015, les témoins se succèdent à la barre. Ce sont les survivants de Charlie. Ceux qui sont toujours là pour raconter, avec leurs larmes et leur pudeur, leur vie toujours sacrément cabossée, même plus de 5 ans après. Dans le numéro du jeudi 10 septembre du journal La Croix, Pierre Bienveau se fait le porte-parole des témoins de l'horreur. Un tsunami émotionnel. Quand on n'a jamais vécu ça, on ne sait pas pourquoi on pleure d'un seul coup, nous dit la journaliste Ségolène Vinson. Sur le site du journal, Coco raconte. Sa vie d'avant 2015, celle d'une jeune dessinatrice qui, 8 ans plus tôt, avait fait un stage d'un mois à Charlie, avec l'envie de ne plus jamais en repartir. Cela me fait bizarre de dire, moi qui suis athée, mais cela a été une révélation, dit-elle. Avec pudeur, Coco raconte aussi l'après, sa volonté d'être forte, de continuer à dessiner, de ne prendre ni somnifères, ni antidépresseurs. La vie plus forte que la mort, les survivants de l'hypercachère veulent y croire eux aussi. Dans l'hebdo du week-end dernier de La Croix, il raconte « Sylvie, c'est le privilège d'être en vie. Je pense très souvent aux victimes. Je me dis qu'en tant que survivant, on doit être à la hauteur de la vie. Parce qu'elle a frôlé la mort, la jeune caissière Zari Ziboni s'est posé la question du sens de la vie. Finalement, dit-elle, si je suis encore en vie, c'est pour aider, pour perpétuer le bien. Zahri Ziboni est aujourd'hui infirmière.
Dans le magazine La Vie, on parle de justice et de pardon.
Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Quelques mots extraits de la première lecture de ce dimanche 13 septembre, un texte de Ben Sira le Sage, mis en miroir avec une réflexion de Grégory Voinbé, vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Une réflexion à lire dans le journal La Vie de cette semaine. Un pardon accordé à autrui qui s'inscrit dans le dynamisme d'un profond changement de vie, dit-il. Et il ajoute, et je le cite, « Le pardon ne vient pas se substituer à la justice. La justice doit être faite. Pardonner, c'est se sortir d'une spirale de haine. Ce n'est pas renoncer à la justice. Et je rajouterai, une porte entrouverte vers l'espérance. »
Espérance, un mot qui fait à la une du magazine Les Pèlerins de cette semaine.
Espérance et rage, c'est l'esprit du grand reportage paru dans le numéro de ce jeudi 10 septembre. Les Libanais défient le chaos. Étouffés par une crise financière, abandonnés par leurs dirigeants, précipités dans la pauvreté, les Libanais ont confié leur rage et leurs espérances à nos confrères du Pèlerin. Pour Hussein Kassoum, volontaire de Nation Station, une station-service désaffectée de Beyrouth, transformée en camp d'aide pour les sinistrés, aider les autres, c'est une thérapie. Dans ce dossier, vous lirez aussi le drame des écoles chrétiennes asphyxiées par la crise. Vrai lieu de mixité sociale et religieuse, leur rôle est essentiel. Le pluralisme et le multiconfessionnalisme dans cette région du monde, c'est l'apanage, la richesse, la fierté du Liban. Mais pour le père Fadi Daoun, le confessionnalisme, c'est aussi l'usurpation du pouvoir politique par des chefs de milices qui se sont imposés par la force. Sortir du confessionnalisme, c'est donc réaménager le système politique pluraliste afin que le gouvernement travaille vraiment pour l'intérêt commun des Libanais. Et l'on se prend à rêver de fraternité.
Avec le pape François qui, le 3 octobre prochain, fera paraître sa nouvelle encyclique « Fratelli tutti, tous frères ».
Oui, une encyclique qui, à l'heure de la pandémie, pourrait jeter les bases d'une nouvelle vision de l'économie fondée sur la fraternité. C'est ce qu'on pourra lire ce week-end dans les colonnes du nouveau numéro de Famille chrétienne. Fraternité, un mot qui résonne de plus en plus aux oreilles des catholiques. D'ailleurs, ils sont toujours plus nombreux à s'engager au sein de ces petites formations. C'est ce que nous révèle notre article de Famille chrétienne à travers l'exemple des paroisses du centre-ville de Toulouse. Des fraternités lancées par le père Simon d'Artigues et par des paroissiens, le curé ne doit pas emporter tout seul le projet. Des fraternités missionnaires à Toulouse, des fraternités bibliques ou Laudato Si dans le diocèse de Grenoble-Vienne, comme on peut le lire dans les pages de La Vie de cette semaine sous la plume d'Adrien Bail. Et enfin, entre tradition biblique et encyclique Laudato Si, une belle histoire à lire dans la croix de ce mardi 8 septembre. À New York, et à l'image du boss de la Bible, quelques glaneurs de l'association Seconde Chance Food ramassent des légumes laissés de côté par des fermes locales pour les porter ensuite vers les banques alimentaires du coin. Ils font ainsi revivre cette tradition ancestrale célébrée par le souffle poétique de Victor Hugo. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril, sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissait tomber exprès des épis, disait-il.
La revue de presse chrétienne avec Marie-Pierre Pavlak. Radio Présence à Toulouse. 97.9.
Dans 3 minutes, vous aurez votre homélie juste après Louane avec maman.
Les âmes ont peste lire en lit. Dans les hôtels, sur les parkings. Pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine. Des coups de blues, des coups de fil. Tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros. Les gratte-ciels nous regardent de haut. Comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se vident, ces nuits où les promesses se tissent. aussi vite qu'elle se dilapide. Des coups de blouse, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À ma quête, maman.
L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu donc à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Bien-aimés, vous avez remarqué que dans ces paraboles, le Seigneur Jésus utilise toujours des caricatures très grossières pour passer de la paille à la poutre. Et avec ces caricatures, évidemment, il ne manque pas d'humour pour nous faire comprendre pourtant les choses les plus profondes, les plus délicates, les plus graves aussi, les plus grandes et les plus belles, celles de notre espérance. En particulier aussi cette histoire de deux aveugles qui guident l'un l'autre, évidemment, qui finissent par tomber dans un trou. Il est grave, il est difficile et douloureux d'être aveugle, mais l'histoire telle qu'elle est racontée par Jésus dans sa parabole ne manque pas d'humour. Et finalement, il veut nous faire comprendre que ces aveugles, c'est nous. Chacun d'entre nous, finalement, nous sommes des aveugles. Soit que nous avons une poutre dans l'œil, soit que nous sommes tout simplement, c'est l'image du péché qui ternit notre regard et nous empêche d'y voir clair et d'avancer sereinement dans ce monde tout le long de notre existence. Bref, nous sommes comme des aveugles et donc nous avons besoin d'un guide. L'enseignement derrière cela, c'est que nous avons tous besoin d'un maître. Nous sommes tous les disciples et nous avons besoin d'un maître pour pouvoir avancer, grandir et vivre. Or, Jésus nous dit clairement que nul ne peut se dire le maître d'un autre, comme si on avait des leçons à donner les uns aux autres. Non, car nous sommes tous disciples d'un seul et même maître. Il le dit clairement par ailleurs dans l'Évangile. Nous n'avons qu'un seul maître et c'est lui-même finalement le Seigneur Jésus, le Christ. Nous sommes donc pendant notre vie chrétienne sur terre comme à l'école du Christ, ou alors nous pourrions dire en formation. En formation en vue de quelque chose de plus grand, bien sûr, c'est l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes en formation, ou alors comme l'utilise saint Paul dans la première lecture que nous avons entendue quand il écrit aux Corinthiens, il est en entraînement, Il se compare, lui, à un sportif qui veut gagner une couronne et il est dans un entraînement et pour cet entraînement, il se donne une discipline sévère pour être sûr d'avancer. Cette discipline sévère que se donne saint Paul, qui est donc finalement l'école dans laquelle nous vivons, nous qui sommes disciples et qui recevons un enseignement de notre maître, le Seigneur Jésus, nous comprenons bien que cette discipline sévère et douloureuse, c'est la croix. La croix de Jésus. La croix où Jésus a donné le sommet, le maximum de tout l'enseignement qu'il avait à donner aux hommes, c'est-à-dire un enseignement d'amour. C'est en regardant toujours la croix que nous comprenons qui est Dieu, de quel amour il nous aime pour envoyer ainsi son Fils. Et Jésus a inscrit dans son cœur aussi le même amour pour offrir, livrer sa vie par amour, tant pour Dieu son Père que pour nous les hommes. Voilà le grand enseignement, bien sûr, que nous recevons de la croix. Tous les saints ont toujours voulu garder le regard fixé sur la croix, en disant ceci, « Toi, Seigneur, tu m'as aimé jusque-là, et moi, jusqu'où serais-je capable de t'aimer ?» Voilà l'enseignement que nous recevons de la croix, et nous sommes invités à nous mettre donc à cette école de la croix. De la croix de Jésus, nous tirons le meilleur enseignement sur l'amour de Dieu pour les hommes, et nous apprenons à notre tour à aimer comme notre Maître a aimé. Mais évidemment, cet enseignement est douloureux et difficile, nous le comprenons bien, c'est la croix. Et nul n'aime spontanément et librement la croix. Alors nous pourrions dire qu'il y a une pédagogie de la croix, pour que nous puissions tout doucement recevoir cet enseignement de la croix. Un peu comme saint Paul dit, parmi tous ceux à qui je donne l'enseignement, il y a des faibles. Mais il ne peut pas y avoir de discrimination. Tout homme doit pouvoir recevoir cet enseignement, cette formation, cet entraînement. Alors dit saint Paul, je me suis fait faible avec les faibles pour gagner les faibles. Et finalement, nous sommes faibles. Et tous, nous pouvons dire, nous fermons les yeux devant la croix parce que nous refusons l'aspect difficile et douloureux de cet enseignement. Mais il y a une pédagogie qui va nous permettre, avec une infinie délicatesse, d'entrer dans les enseignements de la croix, dans les enseignements de l'amour. Tout simplement, nous qui sommes pèlerins de Lourdes, nous avons déjà la réponse. Où est cette pédagogie? Elle est tout simplement dans la présence de la Vierge Marie, au pied de la croix d'abord, où la première, la seule, je dirais, elle a reçu l'enseignement de la manière la plus douloureuse qui soit. Mais elle est aussi maintenant auprès de nous. Et c'est comme une véritable maîtresse maternelle que la Vierge Marie nous enseigne au compte-gouttes, tout doucement, cet enseignement pour incliner notre cœur à comprendre la pédagogie divine, à recevoir cette leçon d'amour que Dieu veut nous donner pour apprendre notre cœur à aimer tout doucement. C'est l'infinie délicatesse de la Vierge Marie qui, recevant elle-même l'enseignement du Maître, l'unique Maître, se fait pour nous notre maîtresse pour nous faire entendre cet enseignement. Tout simplement parce qu'elle était la première et la seule, donc au pied de la croix, à recevoir cet enseignement. Alors si pour nous le regard posé sur la croix est difficile, ici à Lourdes, la Vierge Marie conduit notre regard vers la source, une simple source, ou ce rocher au pied duquel jaillit cette source, cette fontaine et cette eau que nous pouvons recevoir aujourd'hui aux fontaines encore, ou alors si nous allons faire le geste de l'eau. C'est une manière toute simple qui, goutte à goutte, je dirais, va nous faire rentrer dans les enseignements de la croix, tout simplement si nous avons compris que cette source qui jaillit au pied du rocher de Massabielle, c'est l'image de Jésus qui meurt sur la croix avec le cœur ouvert et l'eau mêlée de sang qui jaillit de son cœur. La source, c'est Jésus. Ce rocher, c'est le Christ, bien sûr, ce roc solide sur lequel nous avons décidé de fonder notre vie par notre foi. Alors tout simplement, puisque nous sommes pèlerins de Lourdes, et je pense aussi à tous les pèlerins de Lourdes qui ne peuvent pas venir à Lourdes, mais simplement en pensée, spirituellement, on peut se rendre à Lourdes et puiser à cette source pour recevoir doucement, délicatement, les plus subtils et les plus élevés enseignements de la croix, pour doucement incliner notre cœur à aimer. Demandons cette grâce, bien sûr, nous qui avons la grâce de communier aussi à cette Eucharistie. C'est une manière aussi très douce d'entrer dans les enseignements de la croix et de comprendre de quel amour Jésus nous a aimés. Alors en puisant aux fontaines tout à l'heure, en communiant à cette Eucharistie à la fin de cette messe, pensons-y et demandons la grâce que le Seigneur éclaircisse notre regard certainement, mais surtout notre entendement intellectuel et spirituel pour que nous puissions recevoir tous ces enseignements et aimer comme il nous a aimés. Amen.
Dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Votre rappel des titres avec notre journaliste Luc Vidal-Giraud.
Hier, plusieurs dizaines d'enseignants et de parents d'élèves ont manifesté devant le rectorat de Toulouse pour sauver des classes menacées de fermeture en raison de la crise sanitaire. Une délégation a été reçue par le directeur académique de Haute-Garonne. De son côté, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, a adressé hier un courrier à l'Agence régionale de santé. Il y évoque les inconvénients croissants que provoquent à ce jour ces nombreuses fermetures de classes. Toujours à propos de cette crise sanitaire, la mairie de Cahors a annoncé qu'elle organiserait mercredi prochain la distribution du second masque promis aux habitants. S'il n'y a plus aucune hospitalisation liée au Covid-19 dans le Lot, le nombre de cas continue de progresser dans le département. Justice, lors de la quatrième journée du procès en appel de Belkacem Atamena, poursuivi pour l'incendie criminel d'un foyer de la Croix-Rouge à Lavelanet en Ariège qui avait fait 3 victimes, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict de la cour d'assises de Toulouse devrait être rendu dans la journée. Le Conseil d'État se penche, lui, sur la demande du club de football de Luznac en Ariège, une demande de 4,5 millions d'euros d'indemnité à la Fédération française de football pour réparer son empêchement d'accéder à la Ligue 2. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision dans les prochaines semaines. Elles sont 32 sœurs d'une communauté cistercienne à vivre dans l'abbaye de Boulor, dans le Gers. Elles se sont lancées dans un ambitieux projet de ferme bio avec pour objectif de nourrir leur communauté grandissante et vivre du travail de la terre. Le projet de 4 millions d'euros vise à construire une grange avec un élevage bovin, une fromagerie, une charcuterie, des espaces pédagogiques ainsi qu'un magasin de vente directe. Les Restos du Cœur de Toulouse lancent un appel à l'aide. La crise du Covid-19 n'épargne pas les associations humanitaires. À Toulouse, comme partout ailleurs, le nombre de bénéficiaires augmente fortement et l'association a besoin de bénévoles. Autre secteur touché par la crise, celui du cinéma. Si les salles ont rouvert le 22 juin, le public tarde à revenir. L'Occitanie n'est pas épargnée. Face à cette situation, l'agence de cinéma Occitanie Film a conçu une vidéo qui réunit une quarantaine de personnalités. Elle porte le message suivant « Allons au cinéma ». Cette vidéo de 5 minutes sera diffusée dès le 18 septembre dans les salles d'Occitanie et sur Internet. Et puis un petit mot de rugby avec la deuxième journée du top 14 ce week-end. Pau reçoit Agen ce soir. Demain, Toulouse accueille La Rochelle et dimanche, Castres sera opposé au Stade français.
Radio Vatican arrive dans 30 secondes, juste avant un résumé de la météo pour ce week-end. Cet après-midi, des légers nuages, le soleil se fera quand même une place. Et voilà, et puis moi, je rende l'antenne. Merci énormément, en tout cas, on se retrouve dès lundi. Portez-vous bien.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
De Radio Vatican.
Les ADF continuent leurs exactions en RDC. Plus de 50 personnes sont mortes dans des massacres cette semaine.